Moi, tout d'abord, je vais vous remercier d'être là. Et puis, on va commencer doucement en espérant que ça fera arriver notre dernier intervenant. On va commencer par présenter notre panel du jour. Donc, à ma gauche, tout de suite, Stéphane Przybylski, qui est en train de se faire un nom en science-fiction, en particulier avec son cycle des origines chez De Noël, mais qui, par ailleurs, non, c'est au Bélial, mais à maxima culpa. qui par ailleurs a écrit un certain nombre d'autres ouvrages de polémologie, d'histoire, donc qui est un bon spécialiste de science-fiction aujourd'hui, mais aussi un bon spécialiste de l'histoire et de la guerre en général. À sa gauche, Christophe Lambert, qu'on ne présente plus, je pense. En tout cas, la population ici est assez jeune pour que vous ayez probablement lu l'un ou l'autre de ses nombreux romans. Je pense que tu en es à une quarantaine de romans maintenant, quasiment dans les 20 dernières années. Donc auteur jeunesse très bien connu, dont vous trouverez un très grand nombre de livres à la bibliothèque tout à l'heure. À sa gauche, Bertrand Campéis, qui est un spécialiste, lui, de l'Uchronie, qui vient en particulier de sortir un guide de l'Uchronie chez ActuSF, j'espère que je ne me trompe pas cette fois. Et je suis tenté de commencer par toi. Est-ce que tu veux nous rappeler en quelques mots ce qu'est l'Uchronie et les rapports éventuellement de la science-fiction et de l'Uchronie?
C'est le rocher de Sisyphe. Alors, tout d'abord, bonjour. Alors, l'Uchronie est basée en fait sur la même racine étymologique que le mot utopie. Donc en Grèce, utopos, non-lieu, un lieu imaginaire et forcément idyllique où les hommes et les femmes vivent en parfaite intelligence. Puis généralement, ça merde, regardez Rapture dans le jeu vidéo BioShock. Et à partir de là, en fait, on a créé ce mot, chronos, donc un non-temps. Un temps qui n'existe pas, une histoire imaginaire, une histoire qui n'a pas eu lieu mais qui aurait pu survenir. Donc la première uchronie au monde est française, elle a été écrite par Louis Geoffroy Chateau et on tombe déjà pour ainsi dire sur le principe même du nom de la conférence, regagner la guerre, vu qu'elle imagine que Napoléon Bonaparte vint dans les plaines de Russie en 1812 et va même partir à la conquête de la totalité du monde connu. Donc ensuite, vous avez, pas d'évidente raison, mais vous avez tout un tas d'uchronies fixées sur le fait militaire, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de changer le cours d'une bataille. Et si les Allemands avaient gagné à Stalingrad, auraient-ils remporté la Seconde Guerre mondiale? Et si les Japonais avaient fait ceci ou cela? Et si les Allemands en 14 avaient remporté la bataille de la Marne, seraient-ils entrés dans Paris et la guerre de 14 aurait-elle été conçue comme une guerre de 6 mois? Ou autre. Donc ça reste une interrogation, pour ainsi dire, perpétuelle, souvent basée sur le mythe du regret, ou alors sur tout simplement le fait qu'on aime bien imaginer le pire. Imaginer un monde où les nazis auraient pu gagner la guerre, c'est finalement regarder le nôtre et se dire que c'est pas plus mal.
Christophe, est-ce que tu as écrit un certain nombre d'uchronies? Est-ce que ça fait partie de ta palette habituelle?
Oui, alors moi j'adore l'histoire, hein, c'était ma matière préférée à l'école, plus encore que le français. Enfin, j'aimais bien le français, mais l'histoire j'aimais beaucoup. Ceux qui ont assisté à la conférence précédente, j'ai parlé d'une série qui s'appelle « Il était une fois l'homme », dans laquelle je suis tombé comme Obélix dans la potion magique quand j'étais petit. Donc oui, j'adore l'histoire, et l'avantage de l'Uchronie, c'est qu'on a tous les avantages du roman historique sans les inconvénients, c'est-à-dire qu'on a toute la documentation à portée de la main, mais on n'est pas obligé de rester dans les rails connus, et on peut partir sur des chemins de traverse et délirer à partir d'un point de divergence. Donc des Uchronies, j'en ai fait une qui s'appelle « Zulu Kingdom », où des Zoulous envahissent Londres en 1879, si ma mémoire est bonne. Ils sont téléportés de l'Afrique du Sud jusqu'à Londres grâce à la magie d'un chaman Zoulou. Voilà, c'est le plus dur à gober. Une fois que vous avez gobé ça, après, ça, le reste du roman coule tout seul. Mais bon, le début, il faut y aller un peu au forceps, hein. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre en Uchronie? La Brèche, ça frissonne avec l'Uchronie, mais ça n'en est pas vraiment. C'est plus une histoire de voyage dans le temps avec deux personnages qui vont essayer d'empêcher une Uchronie, de type Fatherland, Maître du Haut Château, avec le grand méchant loup Hitler qui gagne à la fin. Souviens-toi d'Alamo, oui, alors... Oui, là, c'est une histoire de voyage dans le temps, pareil. Faut-il intervenir au risque de changer le présent, ou alors faut-il rester les bras croisés ? C'est un peu Nimitz, retour vers l'enfer, avec ce porte-avions qui était téléporté la veille de Pearl Harbor. Ou alors, ma vraie influence, en fait, My Dirty Little Secret, c'est un film des années 80 japonais, Les Guerriers de l'Apocalypse, où une patrouille aéroportée était transportée au temps des samouraïs. Donc il y avait un hélicoptère, une voiture, un tank, une automitrailleuse téléportée au temps des samouraïs. Et bah, ça m'amusait beaucoup. Donc moi, j'ai transporté des avions au-dessus du siège de Fort Alamo. Et puis Aucun homme n'est une île, où le débarquement de la baie des cochons a réussi. Enfin, à côté de la baie des cochons, dans ma version. Et Castro, Guevara sont traqués par les Marines, par les GIs, dans les montagnes de Cuba. Voilà.
Donc nous avons été rejoints par Olivier Bérinval, qui est notre dernier orateur aujourd'hui, également un auteur de science-fiction. Depuis tout à l'heure, je me trompe sur les éditeurs, mais je crois que toi, tu travailles pour Mnemos, que ton dernier roman, c'est Nemrod, chez Mnemos, qui est plutôt du space opéra, du planète opéra. Est-ce qu'il y a aussi une dimension uchronique ? Est-ce qu'il t'arrive de jouer avec le temps dans tes romans ?
Oui, tout à fait. Alors, l'uchronie est plus diffuse dans Nemrod. C'est un space opéra où il y a effectivement une communauté qui est un empire galactique. Donc ça, c'est pas quelque chose de foncièrement original, surtout en science-fiction. Par contre, l'originalité, c'est que cette communauté, on découvre peu à peu, par un certain nombre d'indices, que c'est une émanation du Second Empire, en fait. C'est un Second Empire qui a perduré. On comprend qu'il y a eu des batailles qui ont été remportées contre les Anglos. On sait même plus comment ils s'appellent. On les désigne désormais sous le nom des Anglos. Et on comprend que c'est ce Second Empire qui a essaimé vers les étoiles. Et donc j'imagine... on va dire une société, une architecture militaire, etc., qui est directement dérivée de tout ceci. Mais en même temps, on est dans un futur tellement lointain que ça s'estompe et ça reste quand même plutôt des indices. Et effectivement, ce n'est pas du tout revanchard par rapport à nos amis britanniques.
Stéphane Bertrand nous présentait à l'instant l'Uchronie comme un jeu essentiellement littéraire. Quand on traîne dans les facs d'histoire, on entend comme aussi parler maintenant d'histoire contrefactuelle et de jeux de ce type. Est-ce que l'Uchronie, pour toi, est un outil qui peut être utile aussi sur un regard un peu plus historique
Je vais casser l'ambiance, mais je n'ai pas fait d'Uchronie, en fait. Donc, désolé.
Tu as fait des romans historiques.
Oui, mais voilà, moi, l'idée... Puisque la guerre, c'est le sujet de la table ronde, c'était d'utiliser la guerre en fait comme une espèce de toile de fond, donc pour le château des millions d'années et ses suites, donc ils sont donc bien parus au Bélial. Le château des millions d'années, donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais la Seconde Guerre mondiale sert de toile de fond. Et l'idée dans tout ça, c'est de dépeindre et d'utiliser la guerre comme un moyen de conditionnement des masses. C'est-à-dire un peu ce qui se fait dans 1984 d'Orwell, c'est-à-dire où on va suivre donc les pérégrinations d'un espion SS qui va s'opposer à des factions américaines et britanniques d'une part, et également à des factions qui viennent d'ailleurs, avec l'idée dans tout ça de s'interroger finalement au bout des choses, c'est-à-dire au bout de la tétralogie, hein, donc dans le Crépuscule des Dieux, le quatrième tome donc qui vient de paraître, de s'interroger donc plutôt sur la réalité des choses et sur ce qui constitue réellement une opposition armée. Est-ce que les conflits que l'on connaît opposent bien les factions telles que l'histoire nous permet de les identifier ? Est-ce que les buts de guerre qui sont poursuivis par les belligérants sont bien les buts de guerre qui sont décrits par les historiens et avec, selon moi, une évidence au moins pour ce qui concerne les conflits du XXe siècle, c'est que on manque encore énormément de recul sur la période pour les comprendre. Tout simplement parce que les civilisations qui se sont opposées ou les modèles économiques et politiques qui se sont opposés pendant la Seconde Guerre mondiale, pour certains, ils sont encore en place. Donc, on a un manque d'objectivité, je trouve, pour comprendre, quels étaient les buts des uns et des autres. J'utilise beaucoup l'Empire américain dans la tétralogie, notamment dans Club Uranium, et avec l'idée de décrire cet empire américain dans les années 30 et de parler de tous les liens qu'il a pu tisser avec le Troisième Reich, donc avec Adolf Hitler, qui était à ce moment-là, donc où les Allemands étaient considérés, notamment par les Américains, mais pas uniquement, comme le meilleur rempart face au communisme. Parce que c'est ce qu'on oublie un petit peu aujourd'hui, c'est qu'il y avait quand même il y a eu tout au long du XXe siècle une opposition au moins entre trois factions, hein, les nazis, les communistes et les capitalistes, pour savoir en fait qui allait remporter le match. Donc c'est là où je reviens sur l'idée de guerre en tant que conditionnement des masses. On s'aperçoit, par exemple, on peut s'interroger, c'est une des questions de la tétralogie, on peut s'interroger sur l'entrée en guerre tardive des Américains. On peut s'interroger sur leur attitude vis-à-vis du génocide et des éliminations de masse perpétrées par les nazis dès 1939 en Pologne. Donc voilà, c'est un certain nombre d'éléments historiques qui servent de toile de fond à mon histoire, avec l'idée, effectivement, de dire que derrière le miroir, les choses ne sont pas exactement ce qu'elles sont, et c'est ce qui transparaît, je crois, dans le crépuscule des dieux. Donc c'est pas une uchronie, c'est plutôt de la guerre secrète. Voilà, pour terminer sur le...
Ce que tu dis me fait un peu penser à Starship Troopers, quoi, la guerre comme conditionnement des masses, comment la guerre rend fasciste, oui. C'est ce que Verhoeven avait un peu essayé, oui. Me semble-t-il.
Sauf que, ouais, voilà, moi, sur ces aspects-là, ouais, effectivement, je reviens un peu là-dessus, mais mon idée sur la période, c'est aussi de la rendre la plus crédible possible. Donc, d'essayer de pas faire des caricatures, surtout pas des caricatures de nazis, parce que c'est à la fois, selon moi, facile, réducteur, et ça peut... Enfin, pour moi, dépeindre exactement les nazis tels qu'ils étaient ou les différentes raisons qui pouvaient pousser un individu à adhérer à ce type d'idéologie, ça permet notamment de comprendre le monde d'aujourd'hui. Voilà, donc et on s'aperçoit que finalement rien n'est blanc, rien n'est noir, voilà, c'est ce qui me gêne un peu dans tout l'analyse américaine, de la part des artistes américains, hein, sur la période, c'est que souvent on est très très manichéen, et surtout en tant qu'américain, on se pose souvent en défenseur de la liberté, alors qu'on a utilisé dans la série on en parle aussi.
T'as une très très belle phrase justement dans l'un des derniers trailers du jeu vidéo Wolfenstein The New Colossus qui sortait, où on voit justement la machine de guerre nazie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la suite d'un jeu qui est sorti il y a 2 ans, je dirais maintenant, Wolfenstein The New Order, où pour la première fois dans la série, c'est un très très vieux jeu vidéo qui remonte aux années 90, mon dieu j'étais jeune en 90, pour la première fois, on intègre directement l'Uchronie. Les nazis ont gagné la guerre, le héros se réveille après l'équivalent d'une mission suicide sur le quartier général d'un grand méchant nazi. Il se réveille dans les années 60 dans un hôpital psychiatrique où il comprend, vu qu'il a été dans le coma, que les nazis venaient récupérer des pauvres airs pour pouvoir faire des expériences dessus. Et après 20 ans de coma, subitement, le type sort, recommence à faire ce qu'il sait faire de mieux, buter du nazi, se retrouve sauvé par une infirmière, amené dans une famille, et là on lui apprend, choc et stupéfaction, que les nazis ont gagné la guerre.
Qu'est-ce qu'il fait? Bon, là où n'importe qui aurait été creusé un trou au fond du jardin et commencé à sangloter, bah, lui, il va récupérer des flingues et se dire que ça fait, c'est une des petites phrases qui apparaît dans le jeu quand vous, quand vous butez un nazi. Un nazi en moins, c'est plus que 2,5 millions. Donc ça avance. Et l'un des derniers trailers, justement, j'y ai ressongé par rapport à ce que tu dis, c'est que tu vois donc le côté très déshumanisé avec des types en armure, des espèces de machines, etc. Et on entend une voix en off qui déclare ce sont des monstres. Et une autre voix qui lui répond non. Ce sont des êtres humains, ce sont des hommes. Juste pour rappeler, justement, c'est trop facile de pouvoir dire, ah ben, c'est bien, c'est mal. Et par rapport à ce que tu disais, ça me rappelle, pour moi, il y a toujours eu un basculement pendant et après la guerre. Ça, c'était un truc que j'avais étudié, je devais faire un mémoire de maîtrise sur l'armée américaine, sur le théâtre d'opération européen, de 42 et 45. Donc moi je m'étais vraiment focalisé sur le simple soldat qui a crapahuté, qui par moment comprenait pas grand chose de la stratégie, et je reste marqué pour ma part par les mémoires d'un soldat, Audie Murphy, L'Enfer des Hommes. Audie Murphy est un des soldats les plus décorés de l'armée américaine, il a reçu bon nombre de médailles, que ce soit de sa propre armée, mais aussi d'autres états. Et qu'est-ce que raconte Audie Murphy? C'est la création d'un tout petit groupe, ce qu'on appelle dans l'armée un groupe primaire, et lui va voir la totalité de ses camarades crever au fur et à mesure. On voit les séances de biturage, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, entre les grosses opérations américaines, le type débarque en Afrique du Nord, il débarque en Italie, il fera le débarquement de province, il tirera un moment à la mitrailleuse lourde sur un blindé allié en flammes sur des soldats allemands lors d'une action. Il se marra comme un pendu avec un pote tellement ils sont beurrés à Naples. Il voit arriver des soldats américains, mais d'origine japonaise. Ça, c'est un fait aussi méconnu. Et les types sont tellement beurrés que l'autre tombe en pleurant dans les bras de son pote en lui disant « Mon Dieu, on est foutus, les Japonais ont débarqué ». Et ainsi de suite. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est que finalement, ils sont bien gentils, ils nous ont donné des breloques, mais en même temps, ils rappellent les tristes conditions de la vie américaine. Ils sortaient de la Grande Dépression, il n'y avait pas beaucoup d'informations, on leur a juste vendu que les nazis étaient des gros salopards et qu'il fallait leur péter la gueule. Et petit à petit, qu'est-ce qu'ils se rendent compte? On a tous des uniformes à la con, on est finalement formaté pour tirer sur l'autre sans plus se poser de questions. Et après-guerre, ça c'est assez rigolo, Murphy passera par Hollywood, mais pour ne jouer que des soldats lâches qui s'enfuient pendant l'action, ou comme s'il y avait une espèce de dichotomie pour montrer justement l'absurdité de la guerre telle que la mettait en scène Hollywood. Et pour ma part, le clash, pour ainsi dire, ça reste vraiment l'ouvrage d'Eisenhower, Croisade en Europe, où on commence à instaurer tout un mécanisme de pensée à l'aide de mots-clés, dont la fameuse croisade. Nous sommes des hommes de bien, nous venons apporter la liberté, la bonne parole et l'American way of life, parce qu'il faut pas déconner, donc tiens, voilà des chewing-gums, tiens, voilà du chocolat, et ainsi de suite. Et ça, on s'aperçoit, il y a eu beaucoup de témoignages de soldats américains qui sont ressortis dans les années 90 et encore quelques-uns aujourd'hui, ça ne parlait absolument pas aux soldats de base. Les pauvres types, eux, en dehors de crapahuter, dans la boue, la neige, la chienlit, en dehors de belles images bucoliques, il paraît que les Françaises, tu peux leur sauter dessus et tout se passe bien. Puis après, tu découvrais que ça soit du bocage normand ou le fait qu'ils aient pas voulu passer par Paris parce qu'ils se sont dit que les types, ils allaient courir derrière toutes les Parisiennes qu'ils croiseraient. Et puis, bon, accessoirement, fallait quand même foncer sur l'Allemagne et ainsi de suite. Ça, voilà, on tombe sur des êtres humains. On tombe souvent, ça, on l'a vu aussi au niveau de documentaires en Grande-Bretagne, où beaucoup de femmes reconnaissaient qu'on tombait sur des mômes de 16-17 ans qui sortaient du fin fond de leur cambrousse, qui connaissaient rien au monde. Pour la plupart, c'était même le premier grand voyage qu'ils faisaient. On couchait avec. Parce que bon, le lendemain, on se dit les types, ils débarquaient à Omaha Beach et ça devait pas être rigolo pour dessous. Oui. Voilà, donc t'as vraiment tout un mécanisme pour ma part. C'est, pendant la guerre, c'est très très dur, on en parle. Oui. Après, il y a une chape de plomb qui tombe, ça devient une guerre idéologique et on l'a fait pour le plus grand bien. Et c'est vraiment de nos jours, je dirais peut-être au moment où ils ont commencé à comprendre, que ça soit avec la deuxième invasion en Irak ou autre, qu'on retombe sur des mémoires très dures. J'étais tombé sur les mémoires d'un soldat américain où le mec ne cachait rien de ce qu'il faisait. Ça allait de l'abattage de prisonniers allemands, qui était une pratique courante, après le massacre de Malmedy, où des SS ont massacré des prisonniers américains qui s'étaient rendus, à partir de là, ce qui auparavant était une consigne au niveau des parachutistes, quand les paras ont été balancés dans la nuit du 5 au 6 juillet, des généraux sont venus les voir et leur ont déclaré « On ne vous donne pas d'ordre écrit, tout soldat allemand qui tombent entre vos mains, vous êtes en minorité, vous les butez. Vous les ramenez pas à l'arrière, on se fout de savoir d'un interrogatoire, vous les butez, vous faites au MIF. À partir de Malmedy, on commence à déclarer, les SS ont buté des types, tout SS qui était pris entre les mains, immédiatement vérifié, ça c'était une pratique aussi systématique par les soldats soviétiques, était immédiatement abattu au mieux d'une balle dans la nuque, ou au pire, on le ramenait à l'arrière, et puis bizarrement, le type avait tenté de s'échapper. Donc, ça, on tombe vraiment, comme tu dis, sur la guerre idéologique. Donc, le mec fait ça. À un moment, il joue au foot. Alors, ça a même fini par choquer ses camarades avec la tête d'un soldat ennemi décapité. Donc, au bout de 5 minutes de jeu, ils lui ont demandé de s'arrêter, etc. Et on tombe sur une autre version, j'allais dire, de la Seconde Guerre mondiale, où on se dit, mais les types, en fait, en rentrant, si on les collait pas entre les mains d'un psychiatre, c'était foutu. Et de l'autre côté, j'allais dire, que ce soit en Allemagne nazie ou au Japon, il y a eu un très intéressant livre historique qui est sorti sur le Japon en guerre, où c'était toute une série de témoignages faits à la fin des années 80 par un docteur américain et une doctoresse japonaise auprès de la population japonaise. Ces mecs-là ne sont jamais allés voir un psy. Ça rentrait pas dans la culture finalement de la société. Il y a 2-3 témoignages qui sont aberrants. À un moment, ils tombent sur un type, premier réflexe qu'ils voient, quand ils le voient, le type regarde des gens et fait et mime un geste. Et quand il le voit, le type explique « Ah, bah, en fait, j'étais officier japonais au niveau de la Chine. » Et à un moment, au début, on comprend que c'était pas ce qui se faisait chier, puis ensuite, c'est devenu un jeu. Le truc, c'était de choper des prisonniers chinois et de les décapiter. Donc, il fallait calculer en regardant le coup. Et c'est la première chose qu'il regarde depuis chez une personne. Quel était le meilleur angle pour que la décapitation soit nette et absolument impeccable. On est en 89, donc ça veut dire que le mec, depuis 50 ans, était encore en train de penser à ses séances de décapitation quotidienne au fin fond de la Chine.
On parlait de buter du nazi, Christophe nous parlait de Starship Trooper, essayant d'expliquer que la guerre rendait fasciste. Est-ce qu'on ne peut pas dépasser ce premier stade de l'horreur de la guerre et se dire que la science-fiction et l'Uchronie peuvent aussi rentrer dans une critique politique un peu plus sophistiquée. Starship Trooper, par exemple, tu parlais du film de Verhoeven, est aussi une critique directe, non pas de la seconde invasion d'Irak, mais de la première invasion d'Irak et de la guerre de l'information qu'il a pu y avoir.
Il y a un côté prémonitoire aussi sur le 11 septembre. Hein. À un moment, je ne sais plus quelle capitale, Buenos Aires, est ravagée par un astéroïde envoyé par les bougnoules de l'espace, là, si je puis dire, les insectes. C'est
les bugs.
Pas des guillemets, attention. Non, c'est pas une fatwa.
Oui, je crois qu'on va dire beaucoup d'horreur pendant cette table ronde, mais prenez évidemment beaucoup de choses au second degré.
Et donc, ça légitime l'expédition guerrière qui va partir sur la planète des araignées. Pour, ça nous rappelle des choses du début du 21e siècle.
Oui. T'as dit un mot très important, c'est la légitimation. Moi, l'idée, c'était justement, alors si on parle des Américains, donc, et si on parle de légitimer une guerre, on peut déjà parler de la Seconde Guerre mondiale. Moi, mon idée, c'était de montrer des liens, parce que comme il y a donc des idées de science et d'armes secrètes nazies qui vont être développées donc pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était de montrer d'abord que les Américains avaient tissé des liens très étroits avec le régime nazi. General Motors, c'est une société qui possède déjà dans les années 30 une bonne partie de la marque Opel, donc qui se trouve à Francfort. Et en 1936, Hitler va accorder des droits de douane particuliers à General Motors pour que la société américaine puisse donc envoyer des pièces détachées de camions en Allemagne. Donc pendant toute la Seconde Guerre mondiale, les camions allemands, ils vont tourner avec des pièces détachées made in USA. Il y a une deuxième idée qui est aussi, selon moi, assez importante, c'est que Standard Oil et Texas Oil vont, pendant les années 30, prospecter énormément du côté de l'Arabie Saoudite. Donc pour chercher du pétrole, ils vont en trouver, ils vont s'apercevoir que les gisements sont ceux que l'on connaît aujourd'hui, et donc il leur apparaît, je dirais que en se projetant dans le futur, ils se disent on peut dessiner le monde d'aujourd'hui, des sociétés comme Texas Oil ou Standard Oil, elles le devinent dans les années 30. Elles se disent, la vache, on vient de tomber sur, on est assis sur un tas d'or en fait en Arabie Saoudite. On n'a qu'à se mettre d'accord avec quelques familles régnantes là-bas. Et qui seront tout à fait d'accord pour exclure leur population, qui en plus sont pas très importantes à l'époque, donc exclure les populations de ces richesses. Donc on va pouvoir se mettre d'accord avec très peu de personnes et contrôler tout ça. Ils ont un seul problème à ce moment-là, c'est qu'ils viennent de découvrir une recette pour faire de l'essence synthétique, donc à base de lignite, donc de charbon. Standard Oil est très emmerdé parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait de l'essence synthétique ou on exploite les puits d'Arabie? Donc ils décident d'exploiter les puits d'Arabie pour les raisons que je viens d'évoquer. Et que font-ils avec leur brevet de l'essence synthétique? Eh bien, ils le donnent à Adolf Hitler. Donc pendant toute la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande va tourner à l'essence synthétique. 80% de son carburant, c'est du carburant synthétique. Et elle a quelques puits de pétrole en Roumanie, à Ploiești exactement, et elle les perd pendant l'été 44. Donc de l'été 44 au printemps 45, quasiment donc un an, hein, 8 mai 45, hein, fin de la Seconde Guerre mondiale, pendant un an, l'armée allemande ne va tourner qu'à l'essence synthétique. Et tout ça grâce à qui? Grâce aux Américains.
Ouais, alors, donc, en même temps, la dernière année, il faut voir ce qui restait de l'armée nazie.
En attendant, ils ont tenu.
Ah oui,
ils ont tenu un an. Ils ont.
J'allais dire la bataille de Berlin. Ouais, non, mais à la fin, t'avais des commissaires politiques deux côtés. J'allais dire, ou côté soviétique, ils avaient de moins en moins de pouvoir parce que, de toute façon, la vague était telle que qu'on leur a dit de fermer leur gueule. T'as eu des commissaires politiques qui sont fait menacer de mort par leurs propres soldats. Eux étaient subjugués après avoir eu un pouvoir de vie ou de mort réel à Stalingrad et à Kursk, et quand ils venaient se plaindre, l'officier les regardait et d'un air PMN lui déclarait « Fermez de votre gueule, sortez de mon QG, sinon je vous exécute moi-même », tandis que de l'autre côté, effectivement, on fusillait à tour de bras ou on pendait avec des jolies pancartes en déclarant « j'ai trahi le Reich ».
Voilà.
Mais pour dépasser finalement la Seconde Guerre mondiale, moi je penserais à un truc...
Vas-y. C'était juste pour finir sur mon idée de légitimer, c'est-à-dire que quand vous voyez la politique qui est menée donc par les États-Unis d'Amérique depuis les années 30 vis-à-vis d'Adolf Hitler, et quand vous voyez ensuite là, effectivement ce que tu disais, donc la croisade en Europe qui est lancée donc par Roosevelt et Eisenhower, vous vous dites que effectivement il a quand même fallu faire un espèce de virage idéologique pour les États-Unis, où d'un Hitler fréquentable parce qu'anticommuniste et rempart face à Staline, on est passé du grand méchant loup qui effectivement s'était rendu coupable d'un génocide, d'un massacre de masse sans précédent dans l'histoire. Ce virage, il faut voir qu'il a été effectué et que non seulement il y a donc eu un premier virage pour donc d'abord déclarer la guerre et faire la guerre aux Allemands, mais il a fallu ensuite faire un second virage, et on n'a pas attendu la fin du conflit pour ça. Donc là, le crépuscule des dieux en parle aussi. Ce second virage, c'est à partir du moment où on comprend qu'on va gagner face à Hitler, on se retrouve à nouveau face au premier problème, c'est-à-dire l'armée rouge. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ah ben tiens, il y a des SS, il y a des policiers allemands donc politisés qui viennent d'acquérir de grandes compétences en contre-guérilla et en contre-terrorisme. Et j'utilise le mot terrorisme à dessein aussi pour faire un écho par rapport à la situation actuelle. Donc ce sont des gens qui font du contre-terrorisme dans les pays occupés, notamment en France. Et ces gens-là, les États-Unis d'Amérique vont les exfiltrer, ne vont donc pas les juger et les condamner comme ceux que tu décrivais tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'effectivement il y a un certain nombre de GI qui se font entre guillemets justice quand ils vont trouver un Waffen-SS, mais en haut lieu on va aussi utiliser des gens comme Klaus Barbie, hein, qu'on connaît tous un peu je pense en France, des gens qui vont être utilisés par la CIA et qui vont donc faire quoi? Qui vont faire du contre-terrorisme et de la lutte anticommuniste, notamment en Amérique du Sud. Donc double virage. Et à chaque fois, avec un décalage, ce que je disais au départ, entre le moment où ça se fait et le moment où ça se sait. Parce que voilà, là on est plutôt sur des périodes beaucoup plus récentes, hein, où on est d'accord sur l'histoire du chewing-gum. Hein, ben oui, voilà. Enfin, moi j'ai été élevé par des grands-parents qui me racontaient qu'on donnait du, qu'on leur, que les Américains leur distribuaient du thé, du café, du chocolat.
Le chocolat marquait énormément. Voilà, c'était une denrée rare.
Ouais, voilà, et je vais balancer un copain historien américain, il m'avait dit une fois, ouais, enfin moi à chaque fois que je croise des Français, enfin plutôt anciens, il me parle toujours de cette histoire de chewing-gum et il me dit j'ai toujours envie d'en sortir un de ma poche et de leur présenter parce qu'il faut croire que les Français adorent ça. Mais enfin voilà, il faut voir qu'aussi il y a toujours un petit peu de condescendance, il faut jamais l'oublier non plus entre nos chers amis américains et la vieille Europe hein, qui enfin voilà,
à leurs yeux, oui, il y a un mécanisme de pensée qui s'est mis en place, ils nous ont libérés. Donc à partir de là, je dirais pas qu'il y a droit de vie ou de mort.
Il y en a un qui m'a dit, voilà. on a en 44, on a rallumé la lumière en France. Enfin voilà, c'était un mec de je sais plus quelle unité qui avait pris Saint-Dié et c'est la phrase exacte qui l'a prononcée. Voilà, il y a l'idée que effectivement ils ont apporté la lumière, la paix, la liberté sur ce continent pour certains d'entre eux. Ou alors, c'est leurs dirigeants qui leur ont vendu cette idée. C'était ce que tu disais aussi tout à l'heure. Hein. Il fallait bien aussi donner une raison à ces garçons pour venir se battre ici. Donc, la sauvegarde de la liberté. Alors qu'en même temps, les mecs contre lesquels ils se battaient roulaient avec des pièces détachées et du carburant qui était made in USA. Et on n'abordera pas Coca-Cola, mais aussi, enfin bref.
Ouais. Mais pour rebondir justement par rapport à la Seconde Guerre mondiale, il y a une œuvre qui n'est pas de l'Uchronie pour le coup, mais qui s'amuse à refaire un conflit qui a là pour le coup vraiment cristallisé la société américaine, et ça permettra aussi de rebondir sur un des romans de Christophe Lambert, c'est la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, ça va être la guerre éternelle de Joe Haldeman. Donc, ingénieur qui va combattre là-bas, qui va être blessé à un moment, je crois qu'il va sauter sur une mine, et qui va raconter à travers son roman, finalement, le choc psychologique et culturel qu'était un temps de service au NAM et le retour au pays où on peut se faire cracher à la gueule directement en rentrant à l'aéroport alors qu'ils pensaient être accueillis comme des héros sous prétexte que ce seront des tueurs d'enfants ou autres. Christophe, lui, s'est amusé, comme il me l'avait dit une fois, à transposer tout ça dans Aucun homme et une île, où je crois que ta propre formule, c'était ben, je voulais mon Vietnam, et tant qu'à faire, pourquoi pas le faire à Cuba, en montrant que l'oncle Sam, et voire même une personnalité comme Kennedy, n'aurait pas forcément craché sur un conflit face aux méchants communistes. Finalement, on en revient toujours un peu à la même doctrine. On le voit énormément, c'est un auteur en comics que j'aime beaucoup, Garth Ennis, qui s'est amusé à revisiter plusieurs personnages chez Marvel ou autre, et qui a fait de très bons comics sur Nick Fury, où il montre tout le côté propagande qu'on pouvait trouver dans les comics, soit de guerre, soit d'après-guerre, avec des personnages censés brandir justement le drapeau américain, les bonnes valeurs américaines, et lui s'est amusé à les remettre dans le feu de l'action, dans cette immense guerre froide, mais en montrant finalement toutes les saloperies que l'armée américaine a faites, que ça soit au Vietnam, que ça soit en Amérique du Sud ou autre, et où au final le type qu'on prenait pour un héros n'a fait que légitimité, torture, opération noire, assassinat, j'allais dire magouille avec des groupes terroristes contre lesquels on va finir par se retourner parce qu'ils ne sont plus utiles et qu'ils sont devenus des adversaires, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on trouve aussi avec sa vision du Punisher. On tombe sur un personnage qui, lui, ne tente pas de regagner la guerre, mais de vivre une guerre éternelle.
On a beaucoup parlé de l'histoire réelle et de ses horreurs et ses tragédies. Olivier, qu'est-ce qui peut amener un auteur à transposer ce genre de choses vers l'espace, vers des planètes lointaines ?
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est dans le caractère science-fictif, c'est de voir un peu quelles peuvent être les motivations des auteurs. Et quand on prend quelques exemples, il peut y avoir des motivations qui sont assez différentes. On évoquait Starship Troopers, donc effectivement un conflit avec des méchants insectoïdes. Il faut savoir que donc l'auteur de SF qu'il a écrit, Robert Heinlein, était lui-même militaire de formation, puisqu'il avait fait West Point, qui est l'équivalent de
Saint-Cyr,
voilà, qui est l'équivalent de Saint-Cyr en France. Et quand il a écrit Starship Troopers, il était vraiment dans cette optique-là, et on le qualifie un peu, Robert Heinlein, un peu de représentant de la droite américaine. Il était qualifié à un moment donné comme un écrivain de droite, puisque dans Starship Troopers, il faut se souvenir que tant qu'on n'a pas fait son service militaire, on n'est pas vraiment un citoyen à part entière. Donc il y a ensuite Heinlein a dû s'expliquer et a continué à s'expliquer jusqu'à la fin de sa vie sur ses conceptions. Et il a beaucoup évolué, mais on voit bien qu'il y avait une conception qui était très particulière. Et d'ailleurs, quand le film de Verhoeven est sorti, l'une des premières critiques de Télérama, ça a été de dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette daube intersidérale qui est totalement fascisante, hein, puisque Starship Troopers a été pris au premier degré par Télérama, hein, il faut bien les nommer. » Et effectivement, tout le côté ironique, second degré, que Paul Verhoeven avait voulu instiller en mettant des uniformes qui ressemblent quand même pas mal aux uniformes nazis, hein, dans le film, est totalement passé à la trappe. Donc, je dirais, il peut y avoir plusieurs motivations. À l'extrême opposé, il y a Lucius Shepard, qui écrit la vie en temps de guerre. Lui, il imagine non pas un conflit au Vietnam, enfin une sorte de simili-conflit du Vietnam comme dans La guerre éternelle. Lucius Shepard imagine, lui, un conflit en Amérique centrale et avec des, on va dire, des soldats qui sont modifiés, qui sont un peu des sortes de cyborgs. On essaie de leur développer des pouvoirs psy, notamment pour s'infiltrer dans le cerveau de leurs ennemis, pour essayer de savoir identifier les ennemis, les localiser. Et donc c'est une description absolument cauchemardesque d'un conflit potentiel en Amérique centrale. Et on voit bien que là, c'est un contrepoint qui est pris, puisque le propos de Lucius Shepard est évidemment profondément pacifiste et montre quelles pourraient être les horreurs d'une guerre qui utilisera à la fois des moyens ultra technologiques et des moyens à la limite un peu paranormaux, comme l'utilisation de soldats avec des pouvoirs psy. Bon, ensuite le bouquin part, le bouquin est un peu difficile à lire sur la fin, hein. ça part un peu dans tous les sens. Ils arrivent même dans un couvent, enfin dans la jungle, on ne sait plus très bien où on est, mais disons, toute la première partie est vraiment très intéressante, et ça montre qu'il peut y avoir des motivations très différentes. Et pour rebondir et avec ce que fait Stéphane, moi, ce qui m'a fasciné, c'est peut-être une des questions que vous posez, c'est pourquoi on a besoin de réécrire en permanence l'histoire, notamment avec les nazis qui gagnent à la fin, parce que ça a été fait... il y a Fatherland, évidemment, de Robert Harris, qui est plus policier, avec une Allemagne qui a gagné, et donc ça se passe dans les années 60 à Berlin. Il y a évidemment Iron Sky, qui est un film qui n'est pas resté très longtemps au cinéma, mais qui doit pouvoir être encore sur des plateformes, où là ce sont des nazis qui se sont réfugiés derrière la face cachée de la Lune. Et ils envisagent une contre-attaque à partir de ce moment-là. Donc c'est assez délirant, puisqu'il y a notamment un noir qui est transformé par une machine en arien. Donc ça donne lieu à des situations cocasses totalement surprenantes. Et puis ça montre bien toute l'absurdité des théories racistes du nazi. Donc... parmi tous les conflits, je remarque qu'il y a quand même une nette propension à s'intéresser à la Seconde Guerre mondiale, à réécrire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est pas forcément de l'Uchronie, comme tu le dis, toi, c'est plutôt de la guerre secrète. Oui. Mais c'est vrai que c'est plutôt un conflit qui fascine. Et finalement, sur les autres conflits, il n'y a pas tant de romans ou d'œuvres que ça.
Je pense que la nécessité ou le besoin de s'intéresser à cette période, c'est justement parce qu'elle est proche, et que ce que je disais au départ, c'est qu'elle est, elle est sans doute pas analysée encore avec suffisamment de recul pour vraiment en comprendre tous les tenants et les aboutissants. Il y a des historiens notamment qui essaient aujourd'hui d'associer la Première et la Seconde Guerre mondiale, et qui en fait nous disent on n'a qu'un grand conflit au XXe siècle, et en fait on ne s'est pas vraiment arrêté entre 1914 et 1945, si tant est qu'on se soit arrêté ensuite. Donc là, ça revient à un truc aussi que vous évoquiez, c'est-à-dire la guerre éternelle, et par rapport notamment à l'Empire américain, puisque c'est quand même lui qui domine le XXe siècle et qui tire encore aujourd'hui son épingle du jeu par rapport à tous les événements dont on parle, je dirais on peut aussi s'interroger sur le besoin que peut avoir l'Empire américain d'une guerre et d'une guerre éternelle, d'un ennemi permanent qui pour exister. Ça revient aussi à une des thématiques et selon moi une des thématiques les plus importantes qu'il y a dans 1984 de George Orwell, à savoir que un État, il a besoin de la guerre pour exister. Un chef d'État a besoin de la guerre pour exister. Il y a Mediapart qui vient de sortir un truc sur les relations entre Kadhafi et Sarkozy. Et moi, j'ai entendu un des auteurs sur un plateau où il disait, oui, ben voilà, il y a un moment donné aussi où, oui, mais alors, si Sarkozy a eu des liens avec Kadhafi, pourquoi lui faire la guerre à un autre moment? Et là, le journaliste répond en disant ben, c'est parce que, comme tout chef d'État, à un moment donné, il a besoin de revêtir l'habit du chef de guerre pour exister. Mmh. Et ça, depuis, enfin, de Jules César à Ramsès II, jusqu'à Nicolas Sarkozy et François Hollande au Mali, on a besoin, à un moment donné, de revêtir son habit de guerrier si on veut être suivi par son peuple. Mmh. Donc, guerre, conditionnement des masses, 1984.
On a besoin d'être sanctifié.
Ouais, voilà, tout à fait.
C'est ça,
il
faut que la population t'adore comme un nouveau dieu de la guerre.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ramenant la paix dans la nation. Mais à ce niveau-là, chaque personne, de toute façon, veut être le héros de sa propre histoire. Chaque nation veut être le héros, finalement, du monde, avec sa propre vision des choses et autres. Tu avais une très belle double page dans le Punisher Born qui a raconté la naissance finalement du personnage de Frank Castle alias le Punisher, où ça racontait sa dernière mission au Vietnam, où on tombe sur un monologue impressionnant tout au long de l'histoire. Frank Castle entend une voix qui lui parle et qui lui promet, qui arrête pas de lui demander, réponds oui. Et je te donnerai ce que tu veux. Et à l'extrême fin, en fait, la base où ils sont, qui est en face du Cambodge, subit une attaque massive de l'armée nord-vietnamienne. Les types résistent pendant une nuit complète et sur le point de se submerger, en fait, vont finalement totalement craquer. Le personnage de Castle va répondre oui, et on comprend à la fin que c'était pas une petite voix et qu'il n'était pas devenu complètement fou. C'est juste la mort qui vient lui proposer un deal. Et il y a un très très beau passage où on voit un Américain justement en train de mourir après s'être pris une espèce de giclée dessus, et il y a toute une référence à l'histoire du XXe siècle où il disait auparavant il y avait tout allait bien, puis les nazis et le soleil japonais se sont levés, et alors on a commencé à distribuer des flingues aux types en leur disant faut ramener la paix et la liberté. Il dit donc on a créé tout un tas de sociétés, une immense hydre, et puis on a commencé à faire la guerre pour le bien. Puis ensuite, on a fait la guerre pour faire la guerre. Et toutes ces hydres, il les nomme, il dit, bah, il y avait Colt, il y avait ceci, et on tombe sur tout un tas d'entreprises américaines qui ont toujours partie prenante au niveau de la politique finalement américaine. Ça renvoie directement au fameux discours du complexe militaro-industriel d'Eisenhower, qui reste quand même un discours assez hallucinant quand on y songe. Par rapport à la fin de son mandat, Eisenhower a passé son deuxième mandat.
Et au fait que c'était un militaire. Enfin, oui, en plus, c'est un militaire qui raconte ça.
Donc. Voilà, donc où lui-même dénonçait finalement le fait qu'il y avait des prises de décision qui par moment ne relevaient pas réellement de la présidence, mais qu'il y avait des accords qui étaient passés. Et le truc à la fin, c'est tout simplement pour dire, ben voilà, au bout d'un moment, il n'y a plus besoin de justifier une guerre. Il en faut une. Il en faut automatiquement une pour envoyer des jeunes gens crever envers et contre tout, pour que la bête, finalement, puisse être nourrie perpétuellement.
C'est le choc des civilisations de Huntington, le bouquin qui est décrit parfois comme un des fondements de la politique depuis Bush et de père, hein, depuis Bush et depuis la première guerre du Golfe, où effectivement l'Amérique s'est quand même interrogée depuis la chute du mur pour savoir quel allait être son prochain adversaire. guerre finalement. Et quand on connaît les liens et notamment qui sont tissés en Afghanistan dans la lutte contre le communisme, encore une fois, donc entre les talibans, Oussama Ben Laden et les services secrets américains, on peut s'interroger quand même sur la fabrication ou la préfabrication de d'une entité, je dirais.
Christophe, j'imagine qu'il faut prendre beaucoup plus de gants pour parler de ce genre de choses à destination de jeunesse. Est-ce que ça veut dire que tu renonces à parler de ce genre de sujet trop compliqué, ou est-ce que tu as des techniques littéraires particulières pour les aborder?
L'Uchronie, généralement, je la réserve plutôt au public adulte. Hein. En jeunesse, Souviens-toi d'Alamo, c'est un voyage dans le temps qui pourrait déboucher sur un paradoxe temporel, mais c'est pas tout à fait une uchronie. Parce que pour l'uchronie, pour en goûter la saveur, il faut déjà connaître l'histoire entre guillemets officielle pour bien voir le décalage. Donc aucun homme n'est une île sur la baie des cochons et Cuba dans les années 60. J'allais pas faire ça en jeunesse, hein, clairement. Moi c'est plutôt le public adulte que je vise dans l'Uchronie. Hein.
Mais est-ce qu'il est possible de parler de sujets douloureux et
en jeunesse? Oui, tout est dans l'angle d'attaque, tout est dans la manière d'aborder les problèmes. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas.
On pourrait continuer 2 heures. Je suis tenté de donner la parole à la salle. J'imagine que vous avez des questions pour nos auteurs. Oui.
Alors techniquement, vous l'avez au niveau du système communiste, que ce soit en URSS ou au niveau de la Chine. Vous n'avez même pas besoin de passer par des bouquins, mais vous avez une réécriture, pour ainsi dire, quasi perpétuelle de l'histoire pour que celle-ci puisse coller au mieux avec la mouvance actuelle. Que ce soit Staline qui faisait disparaître ses opposants sur les photos, que ce soit Mao qui va pas hésiter à monter finalement une guerre générationnelle pour pouvoir reprendre le pouvoir, puis liquider finalement ses anciens compagnons de marche parce qu'ils allaient pas dans la direction où ils allaient, ainsi de suite. La Corée du Nord, la Corée du Nord, c'est à peu près la même chose, vu que le pouvoir actuellement en place a liquidé une faction qui avait été mise en place par la Chine. Il y avait l'oncle donc du dirigeant actuel Kim Jong-un et toute une partie de l'intelligentsia qui avait été placée par les Chinois pour éviter un effondrement complet du régime. Donc actuellement, par exemple, parce que vous voyez la crise qu'on nous présente comme une crise Corée du Nord-USA, pour ma part, c'est plutôt une crise Corée du Nord-Chine qui sait plus trop se dépatouiller avec la créature qu'ils ont créée à côté. Mais au niveau de la littérature ailleurs, là, je dois avouer que j'ai un... Ah oui, complètement. Vous avez le manga Zipang en 43 tomes où c'est un peu reparti sur le principe de Nimitz, retour vers l'enfer. C'est un destroyer japonais qui a fait un voyage dans le temps, qui arrive la veille de la bataille de Midway et qui, bon gré mal gré, va être obligé d'intervenir dans l'histoire. Et va la modifier. Alors, la modification apparaît dans le dernier tome, quasiment dans les dernières pages. C'est donc on lutte pendant 43 tomes en disant que l'auteur s'amuse à faire des virages par moment à 45 degrés ou à 180 degrés ou autre. Mais c'est super intéressant. C'est surtout super intéressant la façon dont ça a été reçu par le peuple japonais. Où, suite à un discours de George W. Bush, qui avait déclaré à un moment, je crois, de manière tout complètement innocente, le Japon se fidèle allié depuis plus de 50 années, et les experts s'étaient marrés comme des pendus en disant, attendez, dans ce cas-là, on n'a jamais eu de guerre avec le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, et la population japonaise, la jeune, donc ça c'est un problème qu'on retrouve aussi par rapport à l'histoire telle qu'on l'enseigne à l'école ou ailleurs, avait dit, ah bon, on a été en conflit à un moment. Il y a ça, il y a la Corée du Sud qui s'était amusée à faire un thriller 2009 Lost Memories où ils font toujours partie du Japon. Donc on a droit au tout début à une relecture en fait. Et si la Corée unifiée, hein, j'entends, n'était jamais sortie du giron japonais. Alors il y a quelques passages qui sont un poil longuets, mais c'est assez intéressant. En Chine, c'est très peu vu, les histoires de voyage dans le temps et d'Uchronie, parce que vu le pouvoir en place, ça pourrait leur donner de mauvaises idées. Mais vous avez des auteurs dissidents
qui s'y sont tentés. J'étais tombé sur une uchronie écrite par un auteur dissident vivant aux États-Unis, je crois, qui était paru sous le manteau en Chine, où on tombait sur une Chine où c'était Chiang Kai-shek qui l'avait emporté. Donc l'Afrique, je dirais en dehors de toi, Zulu Kingdom, c'est vrai qu'il n'y a pas réellement de grandes relectures. Ah si, il y avait un truc sur les nazis de Guy Saville qui s'implantaient en Afrique, mais là on retombait pour ainsi dire sur ce qu'avait déjà mis Philippe Cadic dans Le Maître du Haut Château, à savoir une Afrique où on appliquait la solution finale, parce que bon, quand même, merde, c'est, ils sont pas comme nous ces gens-là.
Moi, sur les populations en général, j'ajouterais que autant en Afrique du Nord que en Indochine, on a au niveau de la décolonisation quand même des peuples qui découvrent que leurs anciens maîtres peuvent être vaincus, et notamment par des hommes de couleur, à partir du moment où les Vietnamiens vont s'apercevoir que les Français ont été vaincus par les Japonais, ou que les habitants du Maghreb vont se rendre compte que les Allemands eux ils ont réussi à vaincre les Français également. Il y a aussi dans l'idée de regagner la guerre une façon de sur l'Occident, hein, vous parliez de l'Occident, où nous, Français ou Anglais, par exemple, on va se considérer comme les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Je pense pas que tous les peuples du monde, et notamment les peuples dont je viens de parler, je pense pas que tous les peuples du monde considèrent de cette façon-là notre participation au conflit. Oui, d'accord.
Alors oui. Alors moi j'ai un exemple. Alors c'est vrai que sur l'Afrique, on s'est partagé le monde en fait. Hein. Bertrand fait l'Asie, moi je fais l'Afrique. C'est le Yalta des utopiales. Sur l'Afrique, effectivement, Nadine Gadimer, qui est une prix Nobel de littérature dans les années 80, donc qui est une blanche sud-africaine, qui a écrit Ceux de July, et en fait. Elle raconte une Afrique du Sud à feu et à sang. Donc July est en fait un serviteur noir, donc dans une famille blanche. Et ça raconte les premiers jours d'une insurrection en Afrique du Sud où les noirs se révoltent, vont prendre le pouvoir. Et ça va évidemment mettre tout le monde face à ses responsabilités, ses propres contradictions. Et donc ça, c'est le seul exemple, on va dire, d'uchronie, on va dire, africaine qui me vient immédiatement à l'esprit, où on a, on va dire, une insurrection violente contre une colonisation, enfin une colonisation de facto qui est déjà en place. Ensuite, c'est vrai que c'est un peu le... En Afrique, on a un peu les mêmes problématiques que dans des régimes plus ou moins dictatoriaux. En Afrique du Sud, on s'imagine bien que ce genre de livre a fait scandale. Donc c'est d'ailleurs, elle a dû même le faire éditer à Londres, puisque la censure sud-africaine ça passait absolument pas. Voilà, donc de temps en temps, il y a des livres comme ça, mais c'est vrai que pouvoir critiquer et avoir un œil critique, c'est quand même le propre de nos sociétés occidentales. Hein. Donc inventer une histoire parallèle non officielle, généralement, il faut être dans une démocratie de plein droit pour pouvoir se le permettre.
Hein. D'autres questions ?
Moi, c'est la brèche m'est venue d'une image, en fait. C'est l'image de la couverture illustrée par Manchu, avec cette espèce d'exosquelette blasonné d'une croix gammée qui attend de pied ferme l'armada des alliés. Donc j'ai eu cette image et j'ai construit le roman autour. Donc voilà, j'ai pas mis la charrue avant les bœufs, je suis parti vraiment d'un visuel. Pour aucun homme n'est une île, je me rappelle plus. En fait, souvent, le plaisir, parce que là, on dit des trucs très sérieux, tout ça, mais il y a quand même un gros kiff avec l'Uchronie et l'Uchronie guerrière, c'est le télescopage des civilisations, des technologies. Il y a Dan Simmons qui parlait en avant-propos d'Ilium, je crois, que son plaisir quand il était gamin, c'était de mélanger les boîtes de mini-soldats, de mélanger les gladiateurs avec les bons hommes de la guerre de sécession. Et ouais, moi, c'est un peu pareil. Hein, le télescopage des technologies, télescopage des nations, des civilisations qui se sont jamais rencontrées, télescopage des personnalités qui se sont jamais rencontrées. Hemingway, là, qui va côtoyer Castro dans mon histoire beaucoup plus qu'il ne l'a côtoyé en réalité. Tout ça, c'est jubilatoire. Hein, on s'amuse quand même, on se fait plaisir. Hein.
J'allais dire, ensuite, on tombe sur un consensus. La majorité des auteurs lisent des livres d'historiens. Donc, vous allez tomber sur les plus grandes batailles emblématiques, mais qu'on va considérer comme telles. Même maintenant, Stalingrad, au tout début, ça a été, de part et d'autre, une énorme surprise. Très peu de gens étudient, par exemple, l'impact qu'aurait pu avoir la prise de Moscou en 1941. Un historien, Nicolas Bernard, qui a fait un énorme pavé sur la guerre germano-soviétique 41-45, fait tout un chapitre justement sur une prise éventuelle de cette ville en montrant au final qu'à ses yeux, même si Moscou était tombée, la résistance soviétique aurait été encore plus acharnée, d'autant plus que leur capitale était tombée. Par contre, là, on pourrait se poser les questions en disant, est-ce qu'on aurait eu un Staline à Yalta et pas plutôt un Beria ou autre? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des purges finalement internes propres au régime? Ça, on ne sait pas. Stalingrad, ça reste vraiment la volonté de deux autres. Bah, d'un côté, ça devait être une fuite éperdue vers le Caucase pour récupérer des puits de pétrole, histoire que la machine allemande tourne à plein. C'est l'un des éléments pour expliquer finalement la victoire du Reich dans Faverland. Koursk est très peu étudié, mais parce qu'actuellement on est en train de revisiter la bataille en montrant que les Allemands nettement plus ont mieux réagi et que certains équipements dont on a minimisé le rôle sur les terrains ont plutôt bien réagi. On avait envoyé les premiers prototypes de Panther et de Tic, les trois quarts ont cassé parce que le matériel n'était pas encore bon. Mais un char qu'on avait baptisé le Tigre éléphant, qui était un tank sans tourelle avec juste un canon de 88, a fait un véritable massacre. Par contre, de part et d'autre, bah, pour les soviétiques, le but c'était réellement de voir s'il y avait possibilité d'annihiler les nazis. De l'autre côté, c'était essayer justement de rebriser à nouveau le camp. Et de l'autre côté, bah, vous tombez sur d'autres trucs. Bah, les Britanniques vont plutôt rester scotchés sur Dunkerque. Et si la totalité du BEF avait été capturée à ce moment-là, l'échec évidemment du 6 juin 44 qui est retransparaît dans l'adaptation en téléfilm de Faverland. On part plutôt de ce point de vue-là parce que ça parlera à tout le monde plutôt qu'autre chose. La bataille des Ardennes ou autre, c'est moins traité parce qu'on considère que les choses sont déjà réglées. J'ai bien lu quelques uchronies là-dessus, mais dans ce cas-là, ils mettaient plutôt en scène la mise en place beaucoup plus rapide d'éléments comme des avions en réaction, voire des missiles nucléaires, pour pouvoir expliquer la chose. Et puis voilà. Mais les batailles, finalement, c'est ce qu'il y a de plus simple à changer. Vous ouvrez n'importe quel livre d'histoire, vous regardez, vous dites, tac, une énorme série dont on a eu qu'une toute partie chez nous à travers le film Jinro, où on tombe sur des soldats en armure de combat complètement équipés à l'allemande dans le Japon, bah, le point de divergence, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas tant la Seconde Guerre mondiale, c'est la première où le Japon intervient aux côtés des puissances alliées, ce qu'il a fait, mais intègre la Société des Nations, ne signe jamais de pacte avec l'Allemagne nazie. L'Allemagne nazie va à Stalingrad en utilisant pour la première fois des armures de combat testées sur des hommes. Hitler meurt quand même lors du fameux attentat, mais le Japon est submergé, pour ainsi dire, beaucoup plus tard par l'Allemagne, par une Allemagne, j'allais dire, qui est plutôt dirigée par des équivalents de von Stauffenberg et ainsi de suite, et qui vont maintenir une présence de 10 ans. Et tout ça, c'est une parabole, car c'est bien ça qu'est l'Uchronie assez souvent, sur l'occupation du Japon par les Américains. Sauf que là, on les remplace par une dictature de fait qui va établir une dictature. Et quand on regarde les événements de Jinro, c'est mai 68, et bien là-bas la révolte de mai 68 au Japon, chez nous, c'est les bisounours en train de s'envoyer des fleurs. Hein. Ça a été un truc qui a limite mis à feu et à sang le Japon, où ils ont failli se retrouver avec, je dirais, une quasi-guerre civile dans les rues. Donc c'est simplement pour permettre de reparler d'une situation que souvent l'interlocuteur qui en parle a vécu, mais en utilisant d'autres biais.
En fait, c'est même pas une question. C'est, Vous avez parlé d'Uchronie, que bon, et des fois, en fait, l'existence d'une possibilité d'un univers se joue sur une bataille. Mais vous avez évoqué la bataille de Stalingrad. Moi, je dirais que même l'existence d'un tel univers parallèle ou autre se joue même sur un mot. Parce que l'histoire de Stalingrad, en fait, Hitler, il a, à l'époque, les généraux lui ont conseillé, justement, comme vous avez dit, d'aller dans le sud pour occuper des terrains pétrolifères. Alors que Luther, en fait, dans son idée, il voulait occuper Stalingrad parce que c'était une espèce de symbolique que bon, la ville de Staline va tomber, etc. Donc ils ont concentré toutes leurs pratiquement les.
Alors non, c'est l'explication a posteriori. À l'origine, Stalingrad ne devait être qu'une ça devait même pas être une halte, ça devait être un truc sur lequel on passait pour foncer vers les plaines du Caucase. C'est uniquement quand ils sont arrivés, parce qu'il y a eu une résistance acharnée où les trois quarts de l'armée soviétique ont préféré crever sur place plutôt que se rendre. Faut pas oublier, n'empêche, le fameux ordre de Staline, plus un pas en arrière. C'est relativement bien montré dans le film de Jean-Jacques Hano. Tout type qui faisait demi-tour avait le droit d'être abattu séance tenante par les commissaires politiques et leurs séides sous prétexte que ça devenait automatiquement un traître à la nation. Donc c'est et ça après coup, tout le monde va réécrire l'histoire pour pouvoir dire ah ben dans les faits c'est parce qu'on voulait leur péter la gueule et puis que si on prenait Stalingrad ça aurait été cool. Bah oui, mais auparavant ça avait été la même justification pour Moscou.
Je crains que ça ne doive être le mot de la fin. Donc, merci encore à tous d'être venus, à nos conférenciers.